Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Et Nathalie, comme chaque jour jusqu'à 19h, vous êtes entourée des grandes voix. Ce soir, autour de vous, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouine, éditorialiste politique. Et vous pouvez les interpeller au 39-21.
Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio en grande forme, réveillé par le discours d'Emmanuel Macron devant les maires pendant une heure et demie, Gérard Carrérou.
Oui, réveillé, oui. Enfin, je ne m'endormais pas, mais... Il a mis le paquet.
Ah, alors
là, vraiment, il a mis le paquet pour...
Dans l'anesthésie.
Pour leur faire...
Non, voilà. C'est un peu le clin d'œil que je faisais à Charles Villeneuve. Parce
il
que je crois qu'il n'a pas adhéré.
Je n'ai pas dit qu'il avait réussi, mais j'ai dit qu'il avait mis le paquet pour leur faire plaisir.
Ouais, c'est ça.
Ça m'a
séduire.
Fait penser un peu au « Je vous ai compris oui, », c'est oui, Général
ça.
De Gaulle.
Tu m'enlèves de la bouche.
Oui, mais je te l'avais même dit avant.
De la pommade, de la tonne de pommade.
Je lui avais dit avant, je lui avais dit « Paris qui va nous faire le coup du « Je vous ai compris » du Général de Gaulle ».
J'ai trouvé incantatoire.
Pourquoi il a mis le paquet? Il a mis le paquet parce que d'abord, il les a bien traités. Il en a décoré certains hier. Il va inviter les autres demain soir à l'Élysée. Il a remis quelques petits avantages matériels. Et puis, il leur a dit des choses qui sont comme du miel
pour un maire.
Cher François Baroin, trois fois, mon cher François Baroin.
Oui.
Et puis, nous ne nous sommes jamais vraiment quittés.
Ah,
on avait l'impression qu'il y avait eu du froid pourtant. Et puis, il y a eu le grand débat. J'ai tant appris de nos échanges. Et puis,
vous allez avec le gouvernement.
Ça s'appelle caresser dans le sens du poil ou peloter quand on est un peu plus vulgaire.
Gérard, on a une heure de grande
mais
écoute.
Il a fait ce qu'il fallait. Alors, est-ce que ça a réussi?
Je
vais laisser parler mes.
C'est une histoire d'amour.
Je vais laisser parler mes camarades et puis après,
Macron.
On verra.
C'est très imagé, Gérard, on y est. Pas de sifflet, quand même, Charles. Pas de sifflet, mais pas non plus de folle passion. Et pour autant, cette pommade, 50 fois au moins le mot République, je suis comme vous, le maire de la Commune France.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, il faut dire qu'il l'a découvert dans le cadre du grand débat. Mais on sent très bien, on sait, et d'ailleurs, il le reconnaît, il faut le dire, qu'il ne sait pas ce que c'est réellement un mandat local. Hein. Il n'est pas passé par là.
Mais il ne s'en cache pas.
Il essaie de le comprendre depuis plusieurs mois. Il reconnaît qu'il ne l'a jamais exercé. Et il n'en connaît ni les contraintes, ni les exigences. Moi, j'ai un texto d'un maire du Sud,
alors,
évidemment.
Alors, dites-nous tout.
Là, alors qu'est-ce
révélation.
Qu'il me dit? Il me dit, on voulait du concret, on a eu du charme,
ouais,
vous voyez?
C'est ça.
Bon, c'est vrai, je vous ai
on
compris,
va y venir
tu
dans
as parfaitement
détail.
Raison. On avait le sentiment que c'était une session de rattrapage.
Une opération de... On va venir dans le concret dans un instant, mais Marie-Ève Malouine, c'était une opération séduction, une opération soyons tous ensemble, pas de désunion, etc. etc. Mais en concret, qu'est-ce que vous avez
entendu,
vous?
Il n'y a pas grand-chose en concret. Moi, j'ai l'impression qu'il a aussi été cueilli à froid par François Baroin, qui lui aussi a beaucoup parlé de la République, mais en lui disant des choses pas forcément aimables, mais en disant on se parle franchement entre amis. Et du coup, au début, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron était un peu saisi à froid et avait du mal à se chauffer. Et c'est comme ça qu'il a dit non, mais je suis le maire de la Commune France.
Bon, c'est peut-être pas pour ça qu'il leur a rien annoncé de concret.
Non, mais je crois qu'il s'est rendu compte aussi que son discours, du coup, était un petit peu décalé. Et il a duré longtemps, on l'a vu sortir de son texte pour arriver à la fin. Reprendre
poussif.
Un petit peu pied et être au milieu de son discours, c'est quand même assez anesthésiant, hein, comme dit Charles Villeneuve. Et à la fin, il a pu provoquer des applaudissements et que ça se termine bien.
Pas hyper pardonnez-moi.
Et l'opération séduction, à mon avis, était un petit peu en deçà de ce que les maires attendaient. Ouais. Ils attendaient autre chose que de l'amour, ils voulaient des preuves d'amour.
Exactement.
Ils ne les ont pas vraiment eues.
Voilà, notamment sur la décentralisation, sur les ressources financières, sur l'intercommunalité. Là-dessus, on ne peut pas dire qu'ils aient été gâtés. On en parle dans un petit instant, le concret.
Il a renvoyé la balle au Premier ministre.
Vous pouvez vous aussi interpeller les grandes voix. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21. On lit également vos messages et vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, comme chaque soir, Nathalie Lévy, jusqu'à 19h, vous êtes entourée des grandes voix. Aujourd'hui, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouine, éditorialiste politique, débattent. Et vous pouvez les interpeller, ça se passe au 39-21.
On revient bien entendu sur cette heure et demie d'Emmanuel Macron face au maire. Pas de sifflet, mais pas non plus de folle passion. On va voir la lecture de Mathieu qui nous appelle depuis Paris. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir à tous, merci.
Vous l'avez écouté intégralement, le discours du président?
Une bonne partie, oui.
Alors,
une bonne partie. Bah écoutez, sa danse du ventre devant les maires de France, je la conçois aisément, puisque pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il joue gros dans le sens où je trouve que la désespérance et le mécontentement de beaucoup de maires de France sur le recul du soutien de l'État aux collectivités et sur la disparition de plus en plus de services publics dans cette France rurale rejoint un petit peu le mécontentement et les difficultés qu'ont exprimé depuis plusieurs mois et depuis un an les Gilets jaunes. Je pense qu'à travers les maires de France, si Emmanuel Macron réussit ce dialogue, il va peut-être réussir aussi à calmer un petit peu le mécontentement des Gilets jaunes, parce que derrière la désespérance des maires de France, il y a aussi celle des Gilets jaunes, et inversement.
Bon, alors là, il va falloir qu'il aille dans le concret, c'est pas encore l'heure, de toute évidence, mais il y a évidemment une échéance, merci Mathieu de votre appel, il y a une échéance, c'est les municipales. C'est compliqué, évidemment, ces municipales pour Emmanuel Macron, donc il fallait qu'il donne quelque chose aux maires, là, il leur a donné des mots, pour l'instant. C'est compliqué parce que l'ancrage territorial, il l'est pas pour l'AREM, qu'il va falloir jouer les alliances, donc il fallait quand même apporter quelque chose, et on est allé essentiellement, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Marie-Ève Malouine, sur le régalien, on va y venir dans le détail, il n'y aura pas de liste communautaire, mais...
Oui, alors est-ce que c'est la... Alors je me suis est-ce posé la question, est-ce que c'est vraiment ce qu'attendaient les maires, étant donné que les listes communautaires, il y en aura peut-être quelques dizaines, peut-être moins que ça. Je n'ai pas l'impression, mais je ne suis pas impliqué véritablement dans les petites communes et tout, mais je n'ai pas l'impression que c'est le souci numéro un aujourd'hui des maires qui vont se prêter à réélection ou à
élection.
Dans certaines régions. Mais en tout cas, il a dit non. Bon, cela étant, je ne veux pas dire le contraire. J'avais dit à ce micro que ça ne me paraissait pas une très bonne idée, la proposition de Retailleau de vouloir les interdire. C'était très compliqué à faire. Bon, donc il est sur cette position.
Non, là, sur le communautarisme, il a été quand même relativement précis.
Oui, mais la question est sur les listes
communautaires.
Mais en même temps, il a reporté, si tu veux, son opinion. Et notamment, il a appelé les maires à l'intransigeance républicaine. Mais l'intransigeance républicaine, quand elle ne s'appuie pas sur un débouché législatif, c'est difficile. Qu'est-ce que c'est l'intransigeance républicaine?
Il a annoncé des mesures à venir que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, doit exposer. Mais c'est vrai que ce n'était pas la demande première des maires.
Non.
Leur demande, c'était l'autonomie financière la taxe d'habitation. Et là, il leur répond, attendez, je vous avais prévenu, je l'ai dit pendant la campagne.
Et je tiens un peu court. Et la décentralisation, cela étant, les maires vous répondent de toute façon sur la décentralisation, que pour l'instant, ils n'entendent rien. La décentralisation, ce sont les préfets. Et les préfets, avant tout, selon les maires, quand vous dialoguez avec eux, ils veulent plaire à Paris. D'ailleurs, leur place dépend de Paris aux préfets. Et les préfets sont pratiquement intransigeants là-dessus. Or, les maires attendent beaucoup plus que ce qui leur a été dit aujourd'hui sur la décentralisation.
Et sur
la même manière sur la taxe d'habitation.
Il a
ironisé est-ce que vos concitoyens, vos administrés viendront vous dire finalement qu'ils paient moins la taxe d'habitation. Or, en réalité, la vraie question des maires et que posent les maires, c'est pas ça. C'est le remboursement qui, à l'heure actuelle, existe jusqu'en 2021 à l'euro près. Or, eux considèrent que la parole de l'État n'a aucune crédibilité
dans le temps. Il dit, mais c'est compensé effectivement à l'euro près.
Oui, mais ce que les maires disent, c'est qu'ils sont assez grands pour prélever leur impôt tout seuls, qu'ils n'ont pas besoin de l'État pour le prélever et le redistribuer, puisque ça, ce n'est pas garanti dans le temps. C'est même si c'est cette année, mais l'année prochaine, et un autre président, ils ne l'auront pas forcément. Et quand il ironise en disant aux maires, vous allez empocher les félicitations pour avoir supprimé ça à ma place, je crois qu'il y a là une petite erreur psychologique parce que les maires, ils se considèrent, et c'était le discours de François Baroin, ce sont des élus comme le président de la République. Ils ont leur légitimité, ils ne se sentent pas des supplétifs du président de la République ou des élus de moindre importance.
Oui,
et donc là, il y a une petite erreur psychologique.
Et là,
parce qu'il leur dit, il va jusqu'à leur dire, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le-moi savoir.
Oui, non, mais ça, c'est une...
C'est maladroit. Ça ressemble à tout ce qu'il a fait auparavant
non,
et qu'il avait, il était censé avoir gommé.
Ça, c'est le côté, je fais toujours un peu le malin. Quand j'ai l'occasion, je fais un peu le malin. Non, il l'a fait légèrement, mais il a dit, moi, il y a une chose, je me suis demandé en l'écoutant s'il s'adressait véritablement à son public, autrement dit, les maires de France. Par exemple, il y a tout un développement qui m'a semblé intéressant sur, il ne veut pas que la France soit un archipel. Il a parlé
de
l'a dit. Bon, mais à partir de là, il décrit l'idée d'un nouvel aménagement du territoire. Quand on pense à ça, on pense à l'aménagement du territoire, version de Gaulle, Olivier Guichard, des années 60, etc. C'est-à-dire un grand dessein par la France. Il n'est pas sûr aujourd'hui que les maires... Là encore, ce n'est pas vraiment la préoccupation des maires des petites et moyennes communes. Ça. Ils ont ces problèmes que vous avez dit, que vous avez mentionnés, qui sont, par exemple, sur l'intercommunalité. Les maires se plaignent qu'il y a trop d'intercommunalités. Autrement dit, ils ont de moins en moins de possibilités pour exercer eux-mêmes leur magistrature. Et là, il ne leur a pas donné grand-chose.
Mais là, ce qu'il dit, ce n'est pas lui, c'est la loi de François Hollande.
Mais
c'est pas lui,
ça.
Donc, ils n'obtiennent pas gain de cause.
En même temps, Gérard, il l'a peut-être senti quand, notamment, et pour illustrer, si tu veux, la phrase « Jamais je ne me résoudrai à ce que la France se réduise à un archipel », c'est ça, sa fameuse phrase. Il dit « À ma place, je suis à ma place, je suis le chef de l'État et je laisse... Si tu veux, mais à ceux qui me servent au sein du gouvernement, le soin de vous répondre et d'aller dans le détail sur ce plan-là.
Mais c'est un peu méprisant, ça, non, pour
non,
les maires.
Mais non, il est président de la République, donc il rappelle. Non, ça peut
c'est
l'être.
C'est comme dire aux maires, allez, on s'arrête là.
En tout cas, rien sur le glyphosate. Par exemple,
il est hostile à ce que les maires.
Oui, mais c'est pas ce que les maires. C'est pas que les maires. C'est leur rendre service parce que les pauvres, ça les protège que ce soit l'État qui endosse ça. C'est pareil, c'est pas très adroit.
Voilà, c'est encore pas très adroit. Rien sur le concret. En tout cas, les maires sont restés sur leur faim. Vous aussi.
C'est sur le numérique, il a été concret.
Alors voilà.
Il a été concret sur le numérique. Le haut débit, etc. Il a été
pas avec ça qu'on gagne les municipales.
Allez, on se retrouve dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Entouré des grandes voix, c'est sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. Nathalie, vous êtes jusqu'à 19h entourée des grandes voix ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouin, éditorialiste politique. Et toutes vos réactions sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921.
Avec ce rapport qui tombe en pleine veillée d'armes des syndicats, le Conseil d'orientation des retraites estime qu'il manque de 8 à 17 milliards d'euros pour assurer l'équilibre des comptes en 2025. C'est un rapport qui avait été demandé par le Premier ministre Édouard Philippe lui-même et voici les conclusions qui seront délivrées vendredi officiellement. Et évidemment, on a le 5 décembre, là, en ligne de mire. Les retraites qui sont évidemment le nœud du problème. On va où avec ces nouveaux chiffres? On va où, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Marie-Ève
Malouin? C'est une mauvaise nouvelle, je pense, pour le pouvoir. Parce que le pouvoir s'est engagé dans cette réforme qui devait être la grande réforme du quinquennat et qui était une réforme systémique, c'est-à-dire système pour le demi-siècle qui vient, etc. Or là, tout d'un coup, et on nous disait, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de rétablir l'équilibre, c'est une question de changer complètement le système. Et là, on a un corps, c'est-à-dire un organisme indépendant qui dit attention, les amis, il va y avoir un déficit très important. Et il donne effectivement entre 8 et 17 milliards dans 5 ans. Donc ça veut dire que si on obéit à la simple arithmétique, il faudrait avoir des mesures qui ne soient pas du tout des mesures de grandes réformes, mais qu'il faudrait des mesures qui fassent travailler les gens un peu plus et assez rapidement.
C'est
un énorme pavé dans la mare à quelques jours de la grande mobilisation
du 5 décembre. Voilà. Travailler plus, repousser l'âge d'ouverture des droits au-delà de 62 ans, en tout cas, rajouter là où déjà il y a sujet.
Et ça rajoute et ça complique là où déjà c'était pas très simple à comprendre pourquoi est-ce qu'on faisait cette réforme. Est-ce que c'était parce qu'il fallait revoir le système? Est-ce que c'était pour des raisons de justice sociale ou pour des raisons budgétaires? Donc là, le gouvernement disait il faut revoir tout ce système et maintenant le corps nous dit non, il y a des problèmes budgétaires. Donc pour vendre la réforme, c'est encore plus compliqué. Et donc pour ceux qui, les Français qui se disaient mais cette réforme, j'y gagne ou j'y perds, là, ils vont se dire, ils ont encore plus de raisons de se dire qu'ils vont y perdre.
Et ça veut dire que le gouvernement peut se planquer derrière aussi, justifier
d'un autre
un
côté,
peu plus.
Il peut dire, ce qu'avait dit Emmanuel Macron,
le Conseil d'orientation, nous dit ça, on est obligé.
Ce qu'Emmanuel Macron avait dit, on ne va pas toucher à l'âge de départ à la retraite, sauf si.
Oui, mais c'est enfermé.
Écoutons-le, Emmanuel. On l'écoutera un petit peu plus tard. Pardonnez-moi.
Donc il disait, sauf si les comptes ne sont pas à l'équilibre au moment où la réforme systémique démarre.
Mais d'autant qu'il y a un nouveau phénomène qui apparaît, c'est la jeune garde macroniste qui commence à s'inquiéter sur la fameuse clause du grand-père. Cette clause n'a pas que des amis. Hein. Notamment, les petits-fils commencent à rouspéter, les futurs petits-fils. Parce que finalement, attendre et ne faire profiter de cette retraite, de la réforme de la retraite, que les entrants au travail actuel, c'est ça la clause du grand-père, et bien toute la jeune garde macroniste commence à ruer dans les brancards en disant c'est pas possible, on peut pas finalement taxer les jeunes générations.
Oui, parce que ça accrédite l'idée que si on ne le fait pas pour les gens maintenant, oui, ça veut dire qu'on va le faire plus tard pour ceux, parce que ce sera plus difficile.
Mais cette génération-là, finalement, elle n'aura peut-être pas envie de travailler, justement, de payer d'ici là, si vous voulez, les cotisations des grands-pères.
Et ça enlève le bien fondé de la réforme sur l'idée qu'elle rapporterait à tout le monde.
Christian nous appelle de Niort. Bonsoir, Christian.
Bonsoir.
Alors, c'est une étude qui tombe au plus mal, hein, à 2 semaines de la grève du 5 décembre.
Tout à fait. Tout à fait. Non, moi, je voulais un petit peu élargir le sujet et voir, et vous poser la question de savoir s'il n'existait pas une solution sous forme d'une incitation et du développement de solutions individuelles par rapport à celles qui existent déjà.
Alors, c'est une autre réforme, là, que vous demandez.
C'est une autre réforme que la réforme Macron, alors.
Tout à fait. Non, mais ça peut être un corollaire.
À l'américaine, si vous voulez, ou à l'anglo-saxonne.
C'est ça. On a déjà des dispositifs, le plan épargne-retraite, etc. Et est-ce qu'on peut pas être un peu imaginatif et créer des dispositifs, d'une part, destinés à favoriser une épargne populaire, et par exemple, pourquoi pas, favoriser le logement ou le logement social ?
Écoutez, c'est une vaste question, au moment où on dit qu'il faut changer le système pour une retraite à points, où il faudrait peut-être rallonger la durée de cotisation et revoir les régimes spéciaux. Pour un gouvernement, dans le contexte social, ça fait peut-être se rajouter un caillou dans le sac à dos.
Déjà, quand on commence à être perdu, alors là, on va finir complètement, si vous voulez, au cœur de la forêt. Là.
Merci beaucoup, Christian. C'est une proposition qui a le mérite d'exister. Mais c'est peut-être un peu tôt et c'est peut-être un peu déjà, vu le contexte, peut-être pas le moment, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés depuis Niort. Merci les grandes voix, en tout cas, d'avoir été là ce soir en direct, tous les soirs d'ailleurs, de 18h30 à 19h. Merci à vous. Europe 1.